Donc, Brued'aide, ben, c'est un réseau de collectivités engagées dans l'aménagement et le développement local durable. Donc, aujourd'hui, ça représente 185 communes, 5 EPCI. Voilà, donc c'est dans toute la Bretagne et la Loire-Atlantique. Nous avons à peu près 80% de communes de moins de 3 000 habitants et 8% qui font plus de 5 000 habitants. Voilà, donc en tant qu'adhérent de Brued'aide, en fait, vous pouvez bénéficier d'organisations de visites, de rencontres, ben, de webinaires comme on est en train de faire ce soir. La grande force de Brued'aide, c'est vraiment le partage et la valorisation et la diffusion des expériences. Ça, c'est vraiment capital. On a des salariés qui sont vraiment formidables et qui préparent des fiches projets, qui ont des documents thématiques de mutualisation, dont tout à l'heure Bruno nous parlera sur les démarches participatives. Et en fait, c'est la mise avec les élus. On le sait bien, souvent en tant qu'élu, moi, c'est mon premier mandat de maire. J'étais conseillère municipale avant, mais voilà, ce qu'on apprend le plus, c'est quand on discute entre nous, entre maires, entre conseillers, etc. Et les partages d'expériences sont vraiment capitaux, pardon. Et du coup, il y a beaucoup de cycles de visites. Alors évidemment, qui sont un peu plus restreints en ce moment, mais en tout cas, c'est l'idée, à partir du moment où vous avez un projet dans votre commune, bah, c'est de se rapprocher du réseau et de voir ce qui existe et ce qui se fait déjà. Et on peut mettre voilà, en conseil sur la démarche, la mise en lien avec les partenaires, etc. Donc, c'est vraiment un réseau d'expériences entre nous. Voilà. Je pense que j'ai été assez synthétique, Maïwenn.
Tout à fait, très synthétique. Donc, eh ben, merci de cette présentation effectivement brève. N'hésitez pas à revenir vers nous après si vous avez des questions plus précises, hein, sur le fonctionnement de Brued'aide pour ceux qui ne connaîtraient pas très bien. Je vais remettre l'écran en partage pour vous permettre hop, voilà. Voilà, donc Aurélie va pouvoir reprendre la parole, mais juste avant, je voulais quand même juste vous faire un petit retour rapide sur le nombre de personnes effectivement inscrites. C'est intéressant de savoir qui c'est qui est autour de cette table virtuelle, on va dire. Donc il y a 65 personnes qui se sont inscrites, et là je coche au fur et à mesure les gens qui arrivent. Donc pour l'instant, tout le monde n'est pas arrivé, mais on verra. Sur ces 65 inscrits, en fait, ils représentent 45 communes quand même, donc ils vont de 7 à 11. Commune par département, sur les 5 départements, donc il y a une belle représentation régionale. C'est 58, vous êtes 58 élus et 7 agents, vous êtes inscrits. Et parmi les collectivités, on a des communes, mais on a aussi un département et deux agglomérations. Et parmi les 45 communes qui sont là, enfin collectivités, on a 32 qui sont adhérentes et 13 qui ne le sont pas. Et dernier petit chiffre pour vous identifier un petit peu, parmi tous les personnes présentes ce soir, on a à peu près deux tiers de femmes et un tiers d'hommes. Juste un petit clin d'œil pour dire que c'est peut-être plus les femmes qui portent les démarches participatives ou pas. Je poursuis je relaisse la parole à Aurélie, qui va donc présenter là l'exemple de Plessé. Donc j'ai un petit diaporama. Aurélie, tu me dis si quand je dois avancer tes quelques diapos.
Très bien, donc ça a été vraiment notre projet, cette gouvernance partagée pour la commune, et on a mis en place un certain nombre d'outils par rapport à tout ce qui est, on va dire, démocratie participative. Et dans le schéma que vous pouvez voir à l'écran, on a un peu scindé, donc en bas, vous avez tout ce qui est démocratie représentative, et là aussi, on a mis des outils en place, et puis au-dessus, démocratie participative. Donc, je vais commencer par tout ce qui est démocratie représentative et puis les outils que nous avons mis en place. Donc, alors, quelque chose d'assez simple, évidemment, c'est tout ce qui est indemnité. On les a partagés, nous, au niveau de tous les élus. Alors, avec des strates différentes entre le maire, les adjoints, les conseillers délégués et les simples conseillers. Mais tout le monde a une indemnité pour être extrêmement transparent. On va de 1 600 euros pour le maire, enfin pour la maire, jusqu'à 100 euros pour un conseiller, j'allais dire un simple conseiller, mais pour nous, tout le monde doit travailler et être inclus. Et c'est une manière, en tout cas, de pour nous de commencer cette démocratie représentative avec un avant-goût de la démocratie participative. Ensuite, nous avons, au niveau des délibérations, donc on a décidé que les délibérations pouvaient être reportées d'un mois. Alors, c'est pas révolutionnaire hein, dans ce que nous faisons, mais en tout cas, on s'est dit que sur certains projets qui parfois, les commissions, ou chez nous, ça s'appelle des comités, mais j'y reviendrai après, ont travaillé sur un projet, c'est amené en conseil municipal. Tous les conseillers n'ont pas forcément le même niveau d'information et il peut y avoir encore des questions, etc. Et si on juge que le dossier n'est pas assez traité, eh ben, on reporte. Et ça nous est arrivé là très récemment sur... un projet où voilà, il y a eu beaucoup de questions et en fait on s'est tous dit ben voilà, tiens, là on va retravailler pendant un mois et on reporte au mois suivant au niveau de la délibération. Alors évidemment c'est sur des projets qui portent on va dire d'ordre courant, mais plutôt sur des projets de fond. Alors ensuite on a mis en place un gardien de la démocratie. Alors en fait on s'est dit que les expériences passées en conseils municipaux nous ont montré que c'est pas toujours facile de voter à main levée, que finalement c'est pas forcément démocratique parce que c'est pas facile de, on va dire, tout le temps de dire ben moi je suis pas d'accord ou etc. Donc on a mis en place un élu parmi les 29 que nous sommes aujourd'hui, et qui lui, enfin parce que c'est un monsieur, qui a la mission en tout cas d'être, qui peut être interpellé par n'importe quel autre élu en amont du conseil ou même juste avant le conseil ou même juste au début, pour demander à ce qu'un des points soit voté à bulletin secret. Donc il n'y a pas besoin d'un tiers ou je ne sais pas, enfin, etc. Tout ça, on l'a remodifié dans le règlement intérieur. On a mis en place ce gardien de la démocratie. Voilà, qui permet le vote à bulletin secret et sur simple demande d'un seul conseiller. Donc ça, pour nous, ça nous a semblé particulièrement important. Donc, on vient de le mettre en place pour l'instant avec le règlement intérieur. Voilà, j'ai pas encore de retour d'expérience là-dessus parce que c'est tout nouveau, mais en tout cas, ça nous semblait important que chacun puisse voilà s'exprimer de façon, pas forcément à lever la main parce que c'est pas clairement ce qu'il y a de plus démocratique. Ensuite, un dernier point, c'est au niveau de la délégation du maire. Donc, comme vous le savez, en début des premières délibérations qu'on doit prendre, il y a un certain nombre de délégations qu'on donne au maire, et notamment sur les marchés publics, et on attribue un montant sur lequel le maire peut signer tout seul, entre guillemets, sans avoir à passer par le conseil municipal. Ça nous semblait important que le conseil municipal soit pleinement et un vrai rôle, et pas justement juste une chambre d'enregistrement. Et donc, on a baissé beaucoup, en fait, la délégation de ce niveau-là. Donc, on l'avait mis à 15 000 euros. Alors, je ne vous cache pas qu'en fait, on a l'honnêteté intellectuelle de dire quand ça fonctionne et quand ça ne fonctionne pas. Donc, ça n'a vite pas fonctionné. On l'a remonté à 40 000 euros, tout simplement parce que au niveau des marchés publics, vous le savez, c'est le seuil, un des seuils en tout cas, et qui permet de donner une certaine flexibilité par rapport aux agents qui nous ont tout de suite dit ça va être compliqué à 15 000 euros, il va falloir passer tout ça en conseil municipal à chaque fois et on n'a pas des conseils municipaux toutes les semaines. Donc voilà, ça c'est la partie démocratie représentative. Je ne sais pas si je m'interromps là, s'il y a déjà des questions ou si je déroule et puis on voit après pour les questions. Maïwenn, je t'entends pas, Maïwenn, il faut que tu remettes ton micro.
Alors, c'est Bruno qui répond. Je pense qu'il est préférable que tu déroules et puis qu'on prenne toutes les questions après.
Ok, parfait. Donc, je continue. Alors, tout ce qui est démocratie participative que nous avons mise en place, donc la première chose, c'est les référents villages. Alors, nous, on a une particularité à Plessé, c'est que c'est une commune qui fait 10 000 hectares, qui est à trois bourgs, et qui, du coup, demande un certain nombre, qui est très étalé. On a un gros centre, et puis deux petits bourgs, et plein de hameaux un petit peu partout. Et on a essayé de voir qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour faciliter le lien entre les élus et les habitants. Et c'est des habitants qui sont venus nous voir en nous disant pourquoi il n'y aurait pas des référents dans chaque gros bourg ou dans chaque petit village, de façon à faire le lien entre la commune et les villageois. Tout simplement pour des demandes des fois qui sont à un fossé qui est bouché ou des choses comme ça, et bien pour avoir des informations qui passent des habitants à la mairie et nous inversement, de faire redescendre des informations aussi par ces référents villages. Alors, on n'a pas encore on est en train de construire cet outil, on va dire cet outil, c'est pas vraiment un outil, mais en tout cas, on est en train de mettre ça en place. Comme vous le savez, depuis mars, enfin nous, on a vraiment démarré, on a été installé au mois de fin mai, donc démarré en juin avec la crise Covid, etc. On n'a pas pu mettre tout en place. Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose qu'on est en train de travailler, surtout sur le plan quelles fonctions on leur donne, quelles missions, comment on articule bien les informations entre la mairie et ses référents villages. Et comment on va les recruter. Est-ce que c'est est-ce que c'est la base de volontariat, est-ce que c'est une cooptation, etc. Donc, tout ça, ça se met en place. Et puis, l'idée, c'est d'avoir un réseau de personnes sur la commune et qui permettent ce relais d'information. Alors, un gros morceau chez nous, ça a été la mise en place des comités consultatifs. Donc, nous n'avons aucune commission municipale. Nous avons tout de suite décidé de faire que des comités consultatifs. Donc, la commission municipale ne contient normalement les élus. À partir du moment où vous mettez des non-élus, on ne peut plus appeler ça commission. Donc on a appelé ça comité consultatif. Et on a 8 comités consultatifs qui sont sur des thèmes tout à fait classiques entre l'environnement, l'agriculture, l'administration générale, la vie associative, etc. Et donc, on a défini le nombre d'élus par comité. Ça, ça a été voté. Voilà, on est une dizaine. Chaque comité est piloté par un adjoint et un conseiller délégué, voire 2 conseillers délégués pour certains comités un petit peu plus. Je pense notamment au comité agriculture, alimentation. Où là, on a 2 conseillers délégués en plus d'un adjoint. Donc, le nombre d'élus a été défini et par contre, le nombre de non-élus, alors que nous, on a appelé les VIP, les volontaires investis à Plessé, c'est des habitants et là, on n'a pas restreint le nombre d'habitants. Alors, ça peut paraître un peu surprenant, mais en fait, on s'est dit qu'il fallait plutôt qu'on soit nombreux pour permettre au comité de vivre parce qu'on sait bien que les gens ne peuvent pas tous être disponibles, etc., et qu'on ne se retrouve pas à un tout petit noyau si on n'avait pas élargi suffisamment. Aujourd'hui, sur les 8 comités, on est à peu près 80, il y a 80 habitants qui ont rejoint les comités, sachant que certains sont sûrement plus intéressants aux yeux des habitants que d'autres. L'administration générale a peu de gens, alors que la vie associative ou l'agriculture, l'alimentation, l'environnement ont beaucoup de personnes. Nous avons travaillé sur un engagement des VIP, une espèce de charte pour encadrer aussi le statut, on va dire, de ces volontaires investis à Plessé, de façon à ce qu'il y ait un cadre qui soit comme pour les élus, c'est-à-dire en termes de confidentialité, en termes de, on va dire, d'engagement. Donc, les personnes s'engagent seulement pour, s'engagent pour une année. Après, évidemment, ils peuvent partir avant ou rester plus. En tout cas, c'était un souhait de donner un cadre pour dire aux gens, vous engagez pour une année. L'idée, c'est que si jamais ils veulent se désengager avant, ils essaient de trouver quelqu'un pour les remplacer. Mais là encore, on est absolument pas en obligation. C'est, on va dire, que pour essayer de montrer ce qu'on aimerait. Mais évidemment, on va pas taper sur quelqu'un parce qu'il est parti plus tôt. C'est bien évident. Donc, ces comités consultatifs vont travailler sur divers projets au sein de chaque comité. Donc, il peut y avoir du travail au sein des comités consultatifs. Là aussi, ces groupes de travail peuvent être à nouveau ouverts sur d'autres habitants qui peuvent donc venir soit sur un comité qui va être sur l'ensemble des projets ou venir que sur un petit projet d'un comité. Voilà, donc la réponse des habitants a été très positive. Il y avait une vraie attente en tout cas, et une vraie volonté. Maintenant, il faut qu'on prenne du temps aussi pour analyser comment les gens sont venus, qui vient, est-ce qu'on est sûr de toucher tout le monde, etc. Après, donc, on a aussi tout un volet qu'on a appelé comprendre, mais c'est pour s'assurer qu'en fait, il y a une reformulation qui est faite au sein des comités, au sein des conseils. Alors, on a eu l'exemple de la comptabilité, etc., parce que les budgets, c'est des choses, quand on n'est pas habitué à un budget de la fonction publique, ce n'est pas comme dans le privé, donc il y a un vocabulaire, etc. Et de même que tous les projets doivent être vraiment extrêmement compris et pédagogiques, avec des outils qu'on essaye concret, et de façon à ce que chacun puisse comprendre et de reformuler à chaque fois. C'est de réinterroger les gens en leur disant, est-ce que limite, il faut que tout le monde soit capable de réexpliquer un budget ou un projet, etc. Et enfin, j'ai mis dans la démocratie participative au conseil municipal, on donne la parole aux citoyens en fin de conseil. Il y a toujours un espace pour que les gens qui sont présents puissent s'exprimer, avec un cadre aussi en termes de questions qui doivent être d'ordre collectif et pas de, si jamais les gens ont des demandes individuelles, je dis au départ que voilà, qu'ils prennent rendez-vous soit avec moi, soit avec l'adjoint qui est sur la question. Et puis, on va mettre aussi en place un tirage au sort pour faire venir les gens, en fait, aux conseils municipaux. Nous, on a toujours 10-15 personnes qui sont là, mais alors, évidemment, hors contexte Covid, bien entendu. Mais on souhaite on souhaite en tout cas que les gens soient aussi invités, qu'il y ait des gens qui peut-être ne viendraient pas aux conseils municipaux et puissent découvrir la vie municipale, parce que le conseil municipal est quand même, et je ne l'ai pas précisé tout à l'heure par rapport au comité consultatif, on précise bien que le conseil municipal reste souverain sur les décisions. Ça, c'est important, on fait bien comprendre, on ouvre aux personnes. On va inviter par contre les habitants qui travaillent dans les comités à venir présenter leurs projets avec les adjoints et les conseillers délégués. Ils auront tout à fait leur place pour présenter les projets aux conseils municipaux, mais ça reste quand même le conseil qui est souverain sur la question finale de trancher ou pas sur un projet. Donc voilà, je suis à peu près, on m'avait donné 13 minutes, donc je suis à peu près dans les temps.
Tout à fait. Donc, j'ai pas tout à fait déroulé les 4 diapos, mais il me semble que notamment celui-là, je ne sais pas si vous voyez cette dernière image, si tu as quelque chose à rajouter sur celle-ci, Aurélie, ou pas.
Rapidement, c'est pour vous montrer qu'on a mis en place des critères de résilience sur les projets. Donc là, c'est pareil, c'est une mise en place. Chaque projet passe par cette grille de lecture et qu'on se pose toujours la question de la participation citoyenne, de l'égalité homme-femme, de la sobriété financière, etc. Donc là, on a un gros travail à faire. Je ne vous cache pas qu'il est pas, il est commencé, mais loin d'être terminé. Mais l'idée, c'était d'avoir une grille de lecture un peu comme le développement durable, mais on l'a mis sur, on l'a un peu étendu. On est ambitieux dans notre volonté d'essayer d'avoir chaque projet cette passoire-là, on va dire, mais ça nous semblait intéressant qu'on n'oublie rien, en fait, et qu'on reste bien dans l'idée qu'on avait au départ de nos projets. Voilà, je vais laisser plutôt maintenant les questions, les interrogations.
Voilà, donc effectivement, merci pour cette riche présentation. Je vais... excusez-moi. Je vais prendre donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Vous pouvez aussi lever la main comme ça, hein, si vous voulez, on vous verra peut-être aussi très bien. J'essaie d'être attentive à l'écran, sachant que comme vous êtes nombreux, donc j'essaie de regarder. Alors j'ai une question ici qui émane de la commune de Langueux, de Christophe de la commune de Langueux. Bon, je n'ai pas le nom, qui précise votre façon de faire est complètement nouvelle et votre mandat, ou est-ce le prolongement de pratiques nées auparavant? Donc je te pose la question.
Non, c'est tout à fait très, très, très différent de ce qu'il y avait avant. La mandature d'avant, le maire a été maire pendant deux mandats, etc. Plutôt sur un schéma classique. Nous, on a vraiment amené, enfin, on a travaillé pendant 6 ans sur le mandat d'avant. Justement, on s'est beaucoup formé sur toutes les démarches de gouvernance partagée, de démocratie participative. On a par exemple, au niveau de, ne serait-ce que pour, on va dire, la tête de liste au moment de la campagne, on a fait on appelle ça, j'arrive plus à trouver tout d'un coup, une élection sans candidat. C'est-à-dire qu'on a déterminé tous ensemble, on était une centaine à peu près, et puis ce jour-là, on devait être à peu près une cinquantaine de présents. On a un collectif qui perdure depuis plusieurs années sur ces questions de démocratie participative. Et on a déterminé ensemble un profil un peu idéal de la personne qu'on voulait en tête de liste. Et en fait, chacun a nommé la personne qu'il souhaitait. Et tout ça, vraiment, on est en rupture totale par rapport à ce qui se faisait avant.
J'ai une question. Il y a Jean-François Coyard de Notre-Dame-des-Landes qui souhaite prendre la parole. Donc, je viens libérer le.
Oui,
Voilà.
sauf si vous préférez avoir les questions par écrit, hein. Excusez-moi, j'ai peut-être
Non, non,
raté
il
le
n'y a pas,
début.
de souci. L'un ou l'autre, moi, j'essaie de suivre les questions.
D'accord.
Voilà. Il y en a plusieurs qui arrivent. Allez-y.
Parfait. Donc j'ai une petite question concernant les comités consultatifs. Est-ce qu'ils ont un pouvoir délibératif avant conseil municipal? Et si oui, lorsqu'ils ont une décision à prendre, comment ils se mettent d'accord? Est-ce que chaque membre a une voix? Voilà.
Alors, les comités consultatifs sont consultatifs en fait. Donc, ils travaillent sur les projets. Tout le monde, il n'y a pas de. C'est vraiment le conseil municipal qui a une voix délibérative. C'est comme les commissions en fait. Une commission dans un schéma classique, on va dire, ont une voix d'apporter un avis, en tout cas sur un sujet. Et là, c'est la même chose, que les gens travaillent sur les projets, les amènent en conseil municipal en disant, bah, voilà, nous, le comité, on a ce projet-là, on l'a porté ainsi, etc. Et après, c'est le conseil municipal qui décide quand même à la fin.
Alors, merci. Je vous avais entendu quand vous avez précisé que le conseil municipal était souverain. J'avais une question supplémentaire et je me suis peut-être mal exprimé. C'est, admettons que dans un comité consultatif, il y ait des désaccords. Est-ce qu'on a prévu quelque chose pour gérer ça? Est-ce que vous avez prévu quelque chose?
Alors, on est sur des méthodes d'animation autour du consensus, etc. Donc, on s'est pas mal formé, nous, l'équipe. On est 5 à être repartis, repartis en fait. Et on s'est beaucoup formé avec d'autres qui sont arrivés aussi. Et on continue à se former justement sur ces techniques pour arriver à prendre des décisions qui font minimum consensus. Et voilà, l'idée c'est d'arriver au conseil municipal, l'idée c'est d'arriver avec un projet que tout le monde porte. Et tant que le projet est pas, tout le monde n'est pas d'accord, on ne le porte pas jusqu'au conseil.
Parfait, merci.
Alors il y a d'autres questions qui viennent presque en rafale. Donc Marie Bousseau de Plouguerneau qui dit, assumez-vous coûte que coûte votre programme ou êtes-vous capable de remettre en cause un projet si trop d'opposition lors des comités.
Bah, bien sûr, oui, on n'est pas. En fait, notre programme, on l'a fait exactement de la même chose. C'est-à-dire que pendant la campagne, et même avant, on va dire que moi, au moment de la campagne, on est allé voir tous les plaisséens, on a fait une douzaine de réunions et on a posé la question à chacun en disant, bah, si vous étiez élu, que feriez-vous? Donc, on a fait ça en petits groupes, en voyant des personnes d'horizons complètement différents, des jeunes, des anciens, on a vu des entreprises, etc. Donc, tout le monde est arrivé avec un certain nombre de projets, enfin d'envies, alors bien sûr, toujours d'envies collectives, hein, pas individuelles. Et on a regroupé ça en fait en 8 grands chapeaux qui, vous avez compris, feront nos 8 comités consultatifs après. A réinvité, il y avait à peu près une centaine de personnes qui avaient participé à ces pré-réunions. On les a réinvités et on leur a dit, ben voilà, on a, bon, alors un peu arbitrairement, en effet, rangé en 8 chapitres parce qu'il fallait bien ranger. Et on a dit à chaque personne, ben vous vous prenez en charge un des huit thèmes, et puis en groupe, vous allez travailler sur les quelques projets qui doivent ressortir. Et c'est comme ça qu'on a bâti le programme. Donc, déjà, on est parti sur des choses que les habitants souhaitaient. Après, en effet, s'il y avait beaucoup d'opposition, etc., ça voudrait dire qu'on a mal fait le boulot. Et je pense qu'il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de voir ce qui va pas, peut-être de changer le projet initial pour essayer de... Mais toujours en allant, on a quand même une grille, comme je vous ai dit, les critères de résilience qui sont importants pour nous. Donc, il faut qu'on arrive à concilier des personnes et qu'on reste toujours sur sur une volonté d'avoir des projets collectifs et pas sur les demandes individuelles. Mais on a des projets, en effet, qui peuvent être problématiques. On en a qui posent problème, en effet. Bon, ben, il faut discuter, il faut revoir, il faut parler, il faut discuter, il faut argumenter, etc. C'est un long travail. Hein.
On a encore quelques questions et quelques minutes. Hélène Amouriau de la commune de Chavagne qui pose la question. Serait-il possible... Non, hop, c'est pas ça. Non, je me trompe, c'était une question technique, excuse-moi. C'est Marion d'Armaillac, pardon, la commune de Saint-Senoux, qui pose la question, les commissions ne sont-elles pas légalement obligatoires et a priori, les habitants ne peuvent pas être présents non plus dans les commissions?
Alors, il y a des commissions obligatoires, en effet. On a la commission, nous, comme on est une commune de plus de 5000 habitants, on a la commission sur l'accès au handicap, etc. Enfin, ce n'est pas le nom exact, je suis le nom en tête, mais en tout cas, sur les questions de handicap, c'est des commissions obligatoires. Donc, quand on met le mot commission, bon, là, on n'a pas mis de... Et encore, c'est une commission où on peut avoir des associations et tout ça. Mais non, on n'est pas obligé d'avoir. On ne s'est pas fait retoquer par qui que ce soit parce qu'on n'a pas fait de commission et qu'on a appelé ça comité, en tout cas.
D'accord. Et Marie Bousseau de Plouguerneau qui pose la question, comment vous vous êtes formée à ces techniques?
Alors ça, ben on a rencontré Saillant, par exemple, hein, que enfin, beaucoup d'entre vous doivent connaître dans la Drôme, ce village qui avait bien fait parler de lui en 2014 sur les démarches participatives, justement. Donc, on les a fait venir, on a beaucoup parlé avec eux. On a été en lien avec le maire de Monnières aussi, en Loire-Atlantique, qui a mis en place pas mal d'outils aussi, donc il nous a bien expliqué. On s'est formé aux techniques de... Ça, c'est des formations qu'on trouve relativement facilement, mais sans trop de problèmes, en tout cas, sur les prises de décision par consensus, justement les désignations sans candidat, enfin, etc. Il y a plein d'outils qui existent aujourd'hui et dont les élus peuvent s'emparer de façon... C'est le milieu associatif qui est assez, on va dire, qui aujourd'hui est assez riche à ce niveau-là. Mais rien n'empêche les élus, bien au contraire, de s'approprier ces outils. Ça marche très bien.
D'accord. Et là, j'ai encore une question. Et après, on va peut-être passer la parole, à moins qu'il y ait d'autres questions. Alors, il y a deux autres questions. On va essayer de répondre rapidement. Gilles Léniel de la commune du Menet, qui dit « Comment gérez-vous le risque de contestation de la légitimité de tel ou tel citoyen au sein d'une commission ?» Et dernière question, je vais peut-être la poser tout de suite. Sabine Touzeau qui pose une question. Est-ce qu'il y a eu des freins liés aux peurs de certains élus? Si oui, comment les avez-vous levés? La commune de Béton.
Alors, la question de la légitimité, c'est pour ça qu'on a fait un engagement pour les non-élus, les VIP, comme on les a appelés. De façon aussi à ce qui est comme pour les élus, nous on lit une charte en début de mandat qui nous dit qu'on ne doit pas avoir de parti pris avec certains sujets, enfin, etc. Là c'est la même chose, donc il n'y aura pas de souci. Vous pouvez aller sur notre site, je crois que c'est en ligne, enfin vous pourrez le récupérer ou on pourra le faire passer si besoin. Cet engagement qui justement cadre un peu, les gens viennent pas pour leur, je sais pas, par exemple on a un comité attractivité avec des entreprises, etc. Donc, c'est pour ça, on cadre bien, on ne vient pas là pour sa propre paroisse, c'est vraiment pour le bien collectif. Donc ça, c'est pour ça qu'on a cadré ça avec l'engagement. Et les freins des élus, ben oui, il y en a. Nous, on était deux listes. Donc l'ancienne municipalité et puis nous, c'est nous qui sommes passés. Donc l'ancienne municipalité est passée dans l'opposition. Comme je vous ai dit, ça faisait deux mandats qu'ils étaient sur des schémas plus classiques. Hein. Je ne dis pas que c'est moins bien ou pas, c'est juste que nous, on apporte des changements. Donc là, évidemment, c'est des changements de pratique qui ne sont pas évidents pour des gens qui ont plusieurs mandats en ayant fonctionné pas comme ce que nous, on fait. Ça, c'est évident qu'il y a des freins. Oui, je ne cache pas.
Du coup, je vois que l'heure tourne, on est bien, on est bon dans les horaires. Donc, si vous voulez bien, on va poursuivre. Alors, et on aura encore un temps, vous aurez le temps encore d'échanger, de revenir éventuellement vers Aurélie si besoin ou vers les autres expériences. Donc, j'espère que vous n'êtes pas frustrés. Et on va avancer. Donc, je vais laisser la parole à Patrick Tanguy, qui est donc maire du JUC et qui va présenter une toute autre démarche, mais aussi très proche des habitants. Voilà, j'espère que vous voyez tous bien l'écran. Bruno, tu me dis si on ne voit pas, je compte sur toi pour me dire. Voilà, donc Patrick, je te laisse la parole. N'hésite pas à me faire un signe ou me dire quand je change de diapo.
Oui, tu peux. Bonjour. Par contre, Maïwan, j'ai pas de retour. Je vois pas mon image, donc voilà. c'est assez particulier de présenter sans voir son image. C'est pas très grave. Donc, je laisse ma vidéo. Hein. J'espère que.
Mais nous, on te voit.
Ouais, c'est ça. Voilà. C'est un peu déstabilisant.
je ne sais pas pourquoi. Ah oui, parce que oui, vous êtes en plein écran, c'est pour ça.
Mais non. Toi, ouais, c'est pas grave, t'inquiète pas. Bonsoir déjà à tous et à toutes. Hein. Je suis assez content de présenter. Alors, comme vous voyez, toi, tu as lancé le diapo.
Oui, normalement, vous devriez le voir.
Je vois toujours la dernière diapo du critère de résilience des projets.
Alors attends, ouais. Du coup, c'est peut-être parce que j'ai pas repris non plus les choses. Est-ce que là, c'est mieux?
C'est mieux. Par contre, alors c'est toi ou c'est moi? C'est le zoom, c'est toi qui l'a fait. Excusez-moi, c'est les options d'affichage.
Non, okay. Là normalement vous devriez avoir une diapo qui s'appelle contexte le JUC.
Ok, bon, c'est pas très grave. Moi j'ai mon diaporama sous les yeux. Ok, d'accord. Je vais avancer. Oui, bonsoir à tous. Vous voyez, on a changé un petit peu de taille. Plessé, 5400 habitants. Nous, on est à 730 habitants au dernier recensement. On est sur une autre dimension. Alors, c'est vrai que là, ce soir, donc, Maïwan m'a sollicité pour présenter un petit peu la démarche qu'on a menée dans le cadre de l'appel à redynamisation de Centre-Bourg au niveau de la recherche et du soutien aux porteurs de projets sur un commerce en Centre-Bourg. Alors, je dirais, pour présenter un petit peu globalement ce sujet-là, tu peux peut-être passer à la suivante. Ouais. Voilà. Pour présenter un petit peu le contexte là-dessus, déjà, vous voyez, en 2018, ça a été la fermeture du dernier bar et seul commerce dans le village. Passe à la suivante tout de suite, ça sera aussi bien. Comme ça, les gens
s'apprécient. La photo ?
Ouais, mais la photo. Je vais m'appuyer un petit peu là-dessus. Le dernier bar ferme en fin 2018 l'appel à redynamisation de Centre-Bourg en fait est d'actualité fin 2018, début 2019. Alors concrètement, nous, dans la démarche qu'on a amorcée sur le mandat précédent, donc moi j'étais conseiller municipal depuis 2008, élu maire en 2014. Nous on est dans une petite commune. Hein. En 2014, on était parti sur une liste ouverte entre guillemets tir au pigeon, donc avec 17 candidats, il y avait deux à éliminer, dont le premier adjoint qui s'est fait virer. Donc il a fallu qu'on assume nos responsabilités et c'est là que j'ai pris la fonction de maire. Ce mandat-ci, on est parti sur une liste qu'on a montée un petit peu autour de ce projet, par contre. Pour recadrer un petit peu, pour représenter la commune dans la démarche aussi que l'on mène ici. Alors, en début 2014, en 2014, quand on a été élu, au même moment, il y avait dans le département du Finistère se créait le CAUE et Finistère Ingénierie et Assistance, qui étaient des outils départementaux. Donc, le CAUE, que vous connaissez sans doute dans vos départements, sauf qu'il n'y en a pas dans le 22, je crois. Mais sinon, donc, le CAUE de 22 existe, c'est le 35 qui n'existe pas. Le CAUE se créant à l'époque, ils nous ont beaucoup suivis parce qu'on les a sollicités très tôt et on a monté des ateliers participatifs. Vous voyez un petit peu l'allure du bourg. À cette époque-là, on voyait les maisons commencer à se fermer, les personnes âgées qui décédaient et je dirais le marché immobilier qui n'était pas très porteur. Donc effectivement, on se posait presque la question des volets fermés un petit peu et de qu'est-ce qu'on allait en faire. Donc on s'est retrouvé avec le CAUE pour faire une lecture un petit peu de tout cet espace-là. On a monté des ateliers aussi participatifs sur l'année 2015 et 2016. On a fait émerger de ça donc des projets liés à l'habitat et liés aussi à l'environnement et liés au patrimoine en réalité. Donc en fait, sur ce sujet-là, on a imaginé, vous voyez l'endroit où qui est repéré la cour du Juc, là, un petit peu cet ensemble. En 2016, on est parti sur cette idée-là qu'on allait mettre une préemption sur cette maison qui était mise en vente. Et on est parti sur ce projet en imaginant à cet endroit-là de créer un espace marché, petite halle ou quelque chose comme ça. C'était un peu l'idée qui était ressortie des ateliers participatifs de 2015. Au même moment, les gens qui habitaient tout à côté se lançaient dans l'idée folle de monter un tiers-lieu, un Fab Lab en plein bourg du Juc. Donc, c'était assez étonnant comme projet. On a beaucoup discuté avec eux et en fait on leur a dit ok, c'est plus important, c'est votre lieu à vous, vous pouvez l'acheter et on vous le laisse entièrement. Donc au départ on imaginait de participer avec eux, ils nous ont demandé de partir tout seul sur ce projet et donc c'est ce qu'on a fait. À ce moment-là, on s'est recentré un petit peu dans notre programme, on s'est recentré sur des aménagements plus cadre de vie et entre autres, on a créé ce tracé que vous voyez là dessus la photo où on a créé une liaison douce entre le haut et le bas du bourg. On a créé un nouvel espace de circulation dans le bourg avec des réhabilitations de zones humides. Le ruisseau que vous voyez dessiné n'existait pas, c'était des buses. On a remis ça à l'air. On est sur le bassin versant du Ry avec tous les problématiques algues vertes, etc. Ce ruisseau-là, quelque part, l'objet de cette réhabilitation de zone humide, c'était aussi de recréer de la zone humide qui sert aussi à améliorer la qualité de l'eau. Donc, et effectivement, ça a été assez probant. Les résultats d'analyse sont assez intéressants. On a complètement changé la vie dans le bourg avec ce chemin. Alors, Samy, ça y est, il est fonctionnel depuis un an maintenant. Et effectivement, ce chemin-là, c'est une évidence qu'il devait être là. À l'époque, on me disait, t'es fou, de toute façon, tu réussiras jamais. Les propriétaires du terrain ne voudront pas vendre ça. On n'a pas acheté tout le terrain, on a acheté juste de quoi faire le chemin. Et en fait, aujourd'hui, c'était une évidence que ce chemin devait exister. Donc voilà un petit peu le contexte. En 2018, il y a la fameuse grande maison là, qui s'appelle Maison de Cœur de Bourg. Cette maison-là qui se retrouve mise en vente en fait. À ce moment-là, nous on réfléchissait à un autre endroit. J'ai eu un contact avec Finistère Habitat qui nous dit l'endroit qu'on imaginait, qui était une maison plus petite et peut-être donc qui nous aurait coûté moins cher et moins cher en travaux, sur laquelle on aurait pu faire moins de choses. Finistère Habitat, le bailleur social, nous dit sur ce projet-là, je ne vais pas, mais par contre, pourquoi pas se lancer sur la grande maison qui est en vente et en gros, entre autres, sur la fameuse grange, donc c'est la photo de gauche que vous voyez, dans ce bâtiment-là, on a en projet effectivement de construire, de rénover et d'aménager 4 logements, donc portés par le bailleur social. Ça fait partie d'une des opérations de notre programme de redynamisation. Conjointement à ça, donc, quand vous voyez sur la maison de Cœur de Bourg, vous voyez la grande maison que c'était. Là, on voit la photo, sur la photo de droite, vous voyez l'intérieur de la maison. Hein, c'est une maison alors, qui n'est pas vieille, elle date de 48, hein, elle n'est pas si ancienne que ça. Mais par contre, elle est très particulière et elle a un charme certain. Elle est placée en plein cœur de Bourg. Derrière cette maison, il y a des espaces qui sont aménageables. Donc, on est parti sur l'idée, il faut créer un commerce là-dedans. Comment on a lancé cette histoire-là? On s'est dit à l'époque, dans notre programme, on avait imaginé le soutien de TAG. Alors, TAG 29, pour ceux qui connaissent, je vais rechercher, excusez-moi, je suis en train de zoomer sur mon propre ordi. TAG 29, en fait, vous voyez sur la diapo, ils ont 3 rôles. Révélateur, idéateur et le dernier, je ne vois plus, et incubateur, en fait. Hein. Donc, c'est une structure nationale qui fait partie d'Emergence, hein, qui sert de soutien aux collectivités pour nous aider à écrire ensemble les appels à projets qu'il peut y avoir sur des démarches, entre autres des démarches de création de commerce et autres. Mais c'est aussi un réseau qui va suivre des porteurs de projets qui sont à la recherche de lieux pour s'installer. Donc, l'idée étant de mettre en lien ces gens-là. La démarche de TAG aussi, c'est d'assister finalement la commune et de nous aider à mener cette démarche et définir un petit peu les attentes que l'on a. Je dirais que comment dire, je reprends mes notes, excusez-moi. le rôle de TAG là-dessus, non, ouais, vas-y sur ça là, c'est bien. En gros, nous, lorsqu'on a lancé le projet, lorsqu'on a été retenu sur l'appel à projet redynamisation plutôt, on a organisé une réunion publique. Alors, vous voyez la date, le 27 août, hein, on a reçu la réponse de l'appel à projet début juillet. On s'est dit, on va annoncer, expliquer à la population qu'est-ce que c'est que cet appel à projet, qu'est-ce qu'on a dedans. Je vous épargne le contenu du reste parce que je vais être trop long. Mais sur ce projet-là, sur la partie commerce, c'est là qu'on a démarré principalement. C'est-à-dire que le 27 août, on fait une réunion en se disant, c'est un jeudi soir, il fait beau, il y aura 20 personnes, tout le monde sera à la plage. On est à 5 km de la mer. Hein. Et en fait, le vendredi soir, la réunion a lieu, la salle était trop petite, il y avait 90 personnes. Et on s'est dit ce jour-là, qu'est-ce qui nous arrive, dans quoi on s'est mis là. L'idée de cette réunion-là, on s'était dit qu'on voulait créer un certain nombre de commissions, comme un petit peu dans l'esprit de ce qui était fait avec l'essai, effectivement, de créer des groupes de travail avec donc, des élus et des administrés, hein, des habitants. On a lancé 4 thématiques. Il y avait 4 groupes de travail, un groupe de travail lié au commerce, un autre au cadre de vie, un autre au patrimoine et un quatrième aux mobilités. Donc, c'était les 4 thématiques qu'on développe sur notre programme d'appel à redynamisation. Sur ça, en fait, donc sur l'aspect commerce, on a lancé un groupe, on s'est dit, le 27 août, on a lancé l'idée de ce groupe commerce. Il y a 22 personnes qui se sont inscrites ce jour-là. Plus d'une quinzaine, je sais pas, c'était 17 ou 18 habitants, parce qu'on était 22 inscrits, il y avait quelques élus, on s'était limité à 5 élus par commission, 4 élus par commission, et tout le reste c'était des habitants. Dans le mois de septembre, ce groupe-là s'est réuni 3 fois. On a lancé début octobre une semaine de résidence. Donc TAG était présent pendant une semaine dans la salle, dont on montrera tout à l'heure une photo du forum. Donc, TAG est venu faire une enquête auprès de la population une enquête sur laquelle il a questionné la population. Déjà, il était à l'écoute, simplement. Le lieu était ouvert, il était présent. Les gens venaient revoir l'intérieur de ce commerce qu'ils avaient connu autrefois, ou découvrir ce que c'était, et voir un petit peu, prendre un café, discuter un peu autour de ce projet. En fait, sur la semaine de résidence, il a eu presque une centaine de réponses, en fait. Alors, il a eu une quarantaine de gens à venir le voir sur place. On a fait une enquête qui a été portée par des habitants. C'est pas les élus qui ont été faire l'enquête. Ce sont des habitants qui se sont déplacés et il y a eu 110 réponses, c'est-à-dire c'est 110 foyers. Il y a 330 foyers au Juc. Il y a 110 foyers qui ont répondu. Donc, on a récupéré toutes ces réponses-là. TAG nous a concaténé un petit peu tout ça en fin de semaine, sur la fin de semaine. Et le vendredi soir, on avait une restitution de cette enquête. Donc, avec une soixantaine de personnes qui ont participé à la restitution. Donc, vous voyez, tout ça, ça nous a mené, on était courant octobre, en réalité. Derrière ça, on a organisé un forum qu'on a appelé Forum ouvert.
Je te coupe un petit peu, il faut que tu accélères un petit peu ta présentation pour qu'on ait un petit peu de temps pour des questions.
D'accord,
aussi. Voilà. Parce que normalement, tu as fini ton temps, là.
Ok. Pardon, je savais que j'allais être long. Donc, en gros, derrière, on a créé un forum ouvert. Ensuite, on a créé un groupe de travail commerce qui s'est réuni trois fois. Et pour un petit peu définir qu'est-ce qu'on attendait là-dedans, le groupe de travail avait donné beaucoup, beaucoup d'idées sur le contenu et ce qu'on attendait du projet. Le groupe de travail commerce, en finale, a aidé à la rédaction de l'appel à candidature. On a lancé l'appel à candidature. On aurait dû faire des visites qu'on n'a pas pu faire à cause du confinement. On a lancé l'appel à candidature fin août. On avait donné 6 semaines pour la réponse des candidats. On a eu 8 visites, on a eu 4 dossiers. Le 5 novembre dernier, on a passé 5 heures. Maïwenn était avec nous. Maïwenn, TAG. Donc Gwendal et nous, on était 3 élus et 2 habitants membres du groupe de travail ont participé au jury. On a reçu finalement en visio 3 candidats. On a passé 1h30 avec chacun des candidats et à l'issue de ça, on avait déjà discuté avec l'ensemble des élus et l'ensemble du groupe de travail commerce. C'était déjà un petit peu le candidat qu'on a retenu, qui était pressenti. Mais en finale, effectivement, les entretiens nous ont permis de valider ça. Et donc là, ça y est, maintenant, le porteur de projet est retenu. L'intérêt, c'est que le porteur de projet, maintenant, on le connaît. Les travaux, l'architecte qui mène les travaux, il est connu. Demain, on a un rendez-vous avec les porteurs de projet, l'architecte, notre AMO, pour se mettre ensemble autour de la table pour avancer maintenant sur le concret et sur la réalisation. Excusez-moi, j'ai été très long.
Non, ça va, tu as juste débordé un petit peu, mais pas tant que ça. Du coup, ça nous laisse un petit peu de temps pour des questions ou des remarques. Donc, je vois personne qui lève la main. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que dans le chat non plus, je vous laisse prendre connaissance donc, de ce projet de commerce accompagné par les habitants et par un groupe de travail. Une question de Sabine Touzeau qui demande quel est le type des porteurs de projets, à quoi ressemblaient, entre guillemets, et quels étaient les profils des porteurs de projets.
Alors,
ou de l'équipe peut-être, principalement de l'équipe retenue.
J'ai pas précisé, si on veut, dans le portage du projet, dans le type de projet qu'on recherchait, en fait, on avait... L'idée, c'est que tout le monde demandait le côté épicerie rentrait, hein, épicerie, le côté bar, restaurant et aussi animation culturelle, quoi. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on avait proposé aux porteurs de projet qu'il fallait y avoir 2 des 3 critères, en réalité. On a eu des projets un projet un petit peu ésotérique avec qui voulait nous créer un théâtre au troisième étage de la maison. Vous avez vu la photo de la maison. Vous imaginez un théâtre de 40 places. C'était des gens qui ne savaient pas ce que c'était qu'un ERP. Donc là, eux, on ne les a pas retenus, en fait. Hein. Mais par contre, les autres, c'était restaurant. Pour l'un d'entre eux, c'était un restaurant qui apportait une offre aussi d'animation locale. Le porteur de projet retenu aussi, c'est épicerie, dépôt de pain, si on veut, vente de bocaux, fabrication de bocaux parce qu'ils sont traiteurs, restaurant, salon de thé ouvert toute la journée, version plutôt bar tapas le week-end, en fait. Hein. Donc, voilà un petit peu, le côté culturel avec, ils sont en lien avec une résidence d'artistes qui est à côté et qui a besoin d'un lieu pour présenter les artistes en résidence. Et donc, en fait, il serait le lieu de présentation des artistes en résidence. Voilà le projet qui a été retenu. Et par contre, on en avait un autre projet intéressant qui était deux couples porteurs d'un projet qu'on qualifiait plutôt de tiers-lieu culturel dans lequel il y avait un côté restauration, mais c'était des gens qui étaient en reconversion. Les gens qu'on a retenus, ce sont des professionnels de la restauration et de l'hôtellerie, en fait.
Une remarque d'Aurélie qui dit qu'elle a hâte de voir le projet quand il sera abouti. Donc, je pense qu'il faudra attendre quand même 2022 avant que le bar ouvre ses portes. Oui. Mais effectivement, on sera nombreux à venir voir. Une question de Fabien Racapé. Comment ont été sélectionnés les habitants faisant partie du jury?
Alors, les habitants faisant les deux personnes faisant partie du jury, le groupe de travail commerce, il y avait huit, je crois qu'ils étaient sept ou huit habitants en finale. Alors, c'est compliqué parce que le groupe de travail commerce, on l'a lancé dans l'ancienne mandature, en fait. Hein. Et l'astuce, pour monter mon équipe ce coup-ci, finalement, c'était assez facile pour moi parce que j'ai été solliciter les gens. J'ai été dire, tu as montré ton intérêt par rapport au projet. J'ai été solliciter des gens qui s'étaient investis dans les différentes commissions qu'on avait créées. Et en réalité, dans le groupe de travail commerce d'avant les élections, j'ai récupéré trois personnes qui sont devenues élues maintenant. Quoi. Donc, en fait, c'est ce qui fait qu'il restait, derrière ça, il restait six autres habitants non élus actuellement sur le groupe de travail où on était 14 au départ. Et en fait, on a fait une lecture commune avec tout le groupe de travail. On a fait une lecture commune des dossiers. Et à un moment, les élus, nous, on est ressortis. Les habitants sont restés accompagnés. Je ne sais pas si toi, tu es resté, Maïwenn, mais Gwendal était resté avec eux. Et ils ont nommé eux-mêmes les deux membres du jury. Ça n'a pas posé de problème du tout. Ça s'est fait naturellement.
D'accord. Est-ce que les projets sont répartis dans les différents espaces ou avez-vous imaginé une mutualisation du matériel de l'espace? En gros, l'aménagement de l'espace, est-ce que l'aménagement de l'espace a été pensé pour différents aménagements?
Là, on parle du projet sur le restaurant, sur le lieu.
Je pense, oui, je pense. Ouais.
En fait, la grande maison là, que l'on voit, je ne sais pas si tu peux remettre la photo avec la maison. C'est la précédente de Merci Votre Attention, non?
Oui.
Sur la grande maison, là, vous pouvez voir, sur cette maison, vous voyez, il y a trois niveaux en réalité. Donc, et à l'arrière de cette maison, on le voit par-dessus le toit de la voiture, on voit, il y a une route qui monte et on voit une espèce de mur un peu, actuellement, c'est une ruine. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, on crée, au rez-de-chaussée, ça fait 100 mètres carrés. À l'arrière, on crée un espace, on va recréer cette longère qui est en ruine aujourd'hui. On va recréer une toiture dessus, ça sera une terrasse couverte. Et en gros, nous, on a pris le parti de faire ces travaux-là. C'est-à-dire qu'en gros, on partait sur la terrasse couverte et les 100 mètres carrés du rez-de-chaussée. C'était ça que l'on mettait à disposition finalement du porteur de projet. On a bien vu que les trois porteurs de projet retenus envisagent d'utiliser les étages. Et en fait, c'est là la particularité, d'où l'importance de la collaboration avec l'architecte dès à présent, parce qu'effectivement, les porteurs de projet vont se retrouver à prendre partiellement en charge les aménagements de l'étage, c'est eux qui vont les porter. Mais ça fait partie de la convention et les trois porteurs de projet, c'était suffisamment clair dans l'appel à projet. Ils savaient où ils mettaient les pieds. Ils nous ont présenté des dossiers bien étayés avec des business plans et des comptes bien ficelés pour voir un petit peu. On sait combien ils investissent dedans parce qu'effectivement, ils vont investir tous les trois. Investissaient des sommes qui ne sont pas négligeables. Quoi.
Vous retrouverez, si vous voulez, sur le site, je vous ai mis deux liens, là, je vous ai mis un lien vers le projet du JUC et ensuite j'ai profité pour mettre le lien vers le PC. Vous retrouverez justement l'appel à candidature pour les projets, si ça vous intéresse de voir comment ça avait été rédigé. Alors, je vois une dernière question parce qu'il est l'heure de passer à la prochaine intervention, mais je vais quand même vous la lire, donc de Daniel Lebois de la Chapelle Thoireau. Le niveau d'investissement est-il très élevé pour la commune? Y a-t-il des subventions?
C'est le jeu de l'appel à candidature région. Vous avez vu la taille du bâtiment et l'état, hein, parce que vous constatez que c'est pas quand même en super. Alors la grande maison, là telle qu'elle est, vous constatez la toiture est neuve, les huisseries du premier et du deuxième étage sont neuves. Il n'y a rien de fait quasiment au deuxième étage, oui. Au deuxième étage, oui, mais au premier, il n'y a rien de fait. Le rez-de-chaussée, tout était à reprendre. Mais là, on est sur des niveaux d'investissement de l'ordre de. On est sur des budgets de travaux qui flirtent avec les 300 000 euros sur cette maison. La longère, on vient de récupérer de la décile. La longère, on l'a rajoutée par rapport au programme initial. On a fait le choix de la rajouter. On vient de récupérer 50% de financement, donc on a un programme à 180 000 euros. Et qui non 170 000 pardon et qu'on a récupéré 50% de déciles sur l'ensemble du programme. Effectivement, grâce à la avec de la on a de la DETR, on a de l'appel à projet régional, on réussit à sortir des taux de subventionnement qui nous permettent d'envisager. On a acheté le bien avec l'EPF également, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'acquisition, l'ensemble de la propriété, on l'a acquise à 165 000 euros, mais notre problème, c'est que derrière, on a l'aspect démolition qui va nous coûter une petite fortune. Mmh. On aimerait bien que ça diminue, là. Et en fait, là, il y a l'EPF qui porte le programme. Donc, on n'a pas l'avance. À un moment, par contre, il faudra qu'on règle l'achat. On a 7 ans devant nous.
Je vais me permettre donc d'intervenir maintenant. Merci, Patrick, pour cette présentation. Très précise. Je pense que tu auras peut-être des appels après, des gens qui voudront peut-être venir voir plus précisément ou avoir d'autres questions. Je pense que tu seras volontaire pour y répondre. Vous avez l'écran est toujours visible. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Bruno, mon collègue, qui va vous présenter donc un document. Le document que Brudet a édité là en 2020, qui est sur notre site internet téléchargeable, que les communes vont recevoir aussi en début d'année en version papier pour ceux qui n'ont pas eu la chance encore de le regarder, qui fait état de 24 retours d'expérience sur les démarches participatives, le soutien aux projets citoyens. Et donc, je laisse la parole à Bruno qui va vous présenter rapidement ce document et sur la partie démarches participatives.
Merci, Maïwenn. Si, rapidement, je vais essayer de tenir le temps qui m'est donné. Alors, peut-être pour commencer, pour vous préciser que, en fait, dans ces ouvrages thématiques, nous appuyons sur un nombre significatif de réalisations pour montrer le champ des possibles. L'idée n'est pas de dire ce qu'il faut faire, mais d'expliquer comment les élus ont fait. Et la synthèse de ces réalisations permet de donner des éléments de compréhension et de méthodologie mais aussi de faire émerger des leviers de réussite et des pièges à éviter. Nous indiquons aussi dans ces documents les acteurs qui peuvent aider les élus dans ce type de projet. Alors, pour cette présentation, on va se faire en… je vais m'appuyer sur cette diapo. Donc, les bénéfices de ce type de démarche, quel type de projet peuvent répondre à ce type de démarche, quel niveau d'implication des habitants, à quelles étapes du projet, quels acteurs appliqués, les clés d'une participation réussie et les pièges à éviter. Maïwenn,
yes.
Alors, les bénéfices sont nombreux. Les projets sont en général plus qualitatifs et mieux partagés grâce à un élargissement des regards, des idées et des compétences. Il sera aussi une meilleure réponse aux objectifs qui ont été fixés au départ et aux attentes des citoyens et des usagers. Les citoyens en ressortent impliqués dans la vie de la commune et acteurs des projets parce qu'ils ont eu l'occasion de découvrir les réalités et les contraintes d'un projet d'intérêt général, d'avoir eu un autre regard aussi sur la fonction d'élu, la possibilité d'acquérir des compétences et des savoir-faire qui peuvent leur être utiles dans leur vie professionnelle ou associative. Ils s'approprient assez facilement les projets et en deviennent les meilleurs ambassadeurs en général. Les élus sont dans une posture de collaboration et de proximité, ce qui leur permet de renforcer l'esprit de l'équipe des élus, mais aussi l'esprit d'équipe avec les agents de la collectivité. Cela crée un climat de confiance avec les habitants. Cela permet d'identifier des personnes ressources pour les prochains projets et souvent pour les prochaines élections. Et de l'avis général, même si cela apporte plus de complexité et de travail, c'est jugé très intéressant par les élus. Les collectivités sont souvent jugées comme étant plus dynamiques, avec plus de liens sociaux. Cela leur donne une image positive auprès de leurs habitants, mais à l'extérieur aussi de leur commune. Elles deviennent plus attractives, notamment pour les porteurs de projets, pour les commerçants ou simplement des personnes désireuses de s'y installer. Suivante, Manuel. Alors, quel type de projet? Quasiment tous les projets peuvent être concernés par une démarche participative. Je vais prendre quelques exemples dans les différents types de projets. Alors, planification, donc PLUI et études de centre-bourg. Alors, un exemple, à Saint-Sulpice-la-Forêt, commune de 1500 habitants en Ille-et-Vilaine. Dans le cadre de leur PLU, les élus et les habitants ont planché ensemble sur Saint-Sulpice 2030. C'est une démarche de co-construction avec des temps de diagnostic partagés, avec des temps de concertation pour imaginer le futur de la commune et même un atelier croisé, de regard croisé sur le centre-bourg avec d'autres élus de Brunède. Équipement public, tous les équipements, tous les projets d'équipement public s'y prêtent. Par exemple, à Bouvron, on est en Loire-Atlantique, commune de 3200 habitants. Le projet de pôle enfance, que peut-être certains d'entre vous ont déjà visité, a été construit dans un processus de conception intégrée, dit PCI. Les acteurs du projet, les élus, bureaux d'études, enseignants, agents, ont participé à des ateliers collaboratifs d'une durée de 1 à 3 jours, orchestrés par un facilitateur indépendant. C'est un processus dit d'intelligence collective dans lequel chacun est important et qui permet de trouver des solutions partagées. Sur les aménagements, un exemple, Cloître Saint-Égonnec, on est dans le Finistère Nord, une commune de 670 habitants. Ça concerne le projet d'aménagement de la place de l'église. Il a été confié à un collectif d'architectes, de paysagistes, qui est venu en résidence dans l'ancien café qui a été rouvert pour l'occasion pendant 2 semaines. Les habitants ont participé à un travail de réflexion, ont fait des propositions qui ont été traduites notamment par des petites maquettes. Cela a débouché sur un programme de travaux dont une partie a été réalisée en chantier participatif. Les autres projets, donc c'est aussi bien des espaces verts, embellissements, projets de dernier commerce, création de services ou des projets culturels. Un exemple, Saint-Lunaire, on est au nord de l'Ille-et-Vilaine, 2500 habitants, qui a été sacrée en 2019, je crois, capitale de la biodiversité, capitale française de la biodiversité. L'Atlas de la biodiversité a été mené avec les habitants, qui ont réalisé des inventaires de la faune et de la flore, qui ont recensé les oiseaux. Il y a eu des avis de recherche placardés dans toute la commune pour qu'ils comptent les hérissons, les vers luisants. Il y a eu des chantiers participatifs. Les habitants se sont fait les ambassadeurs de la biodiversité dans leur quartier. Donc voilà, on passe. Quel niveau d'implication donc globalement à tous les niveaux. Quel niveau d'implication? Alors, on distingue communément quatre niveaux d'implication. Donc, l'information, à l'occasion de réunions publiques, par exemple, ça consiste simplement à expliquer le projet sans forcément chercher un retour des habitants. Donc, c'est une démarche très, très descendante. Deuxième niveau, c'est consultation. Ça peut se faire par des boîtes à idées, des enquêtes, par des outils informatiques. Donc là, on est sur une information qui commence à être un peu à double sens, comme le montrent les flèches. Les propositions des habitants peuvent être prises en compte, mais il n'y a pas forcément de retour auprès d'eux. Et bien évidemment, ce sont les élus qui décident au final. C'est encore une démarche bien descendante. Troisième niveau, la concertation. Qui se fait par des réunions de travail, des ateliers participatifs, des diagnostics partagés. Donc là, on est sur une réflexion partagée entre élus et habitants sur les orientations du projet, et ça va jusqu'aux solutions techniques. Cependant, la décision finale revient toujours à l'élu qui l'a fait connaître aux autres acteurs associés au projet. Et puis enfin, donc le niveau le supérieur, qui est celui de la co-construction, qui se fait à travers des comités de pilotage élus, des comités citoyens, le PCI, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Donc là, tous les acteurs sont égaux dans la décision, et si nécessaire, la décision est validée par une délibération du conseil municipal. Alors, deux exemples de co-construction à Lornan, on est dans les Côtes d'Armor, 750 habitants. La commune a été aussi lauréate de l'appel à projet régional redynamisation des centres-bourgs, et le projet d'épicerie associative a été piloté par un groupe de travail habitants élus, avec pour cadre, bien évidemment, les engagements pris dans le dossier de redynamisation. Et là, le conseil municipal a validé les propositions dans la mesure où les engagements ont été respectés de manière systématique. La communauté de communes de Brosséliande, dont la commune la plus importante est Plélan, donc ils ont mené ce qu'on appelle une D-démarche, donc c'est une méthode participative accélérée pour établir un programme partagé d'action de développement durable. Et les propositions des groupes de travail qui ont eu pour thème les mobilités, les circuits courts, les énergies renouvelables ont été validées au fil de l'eau par la commission développement durable qui a été élargie à l'ensemble des maires de la commune pour que ça soit plus efficace et plus rapide. Suivant, Maïwenn. À quelles étapes? Alors, dès la conception, il est important que le diagnostic soit partagé par le plus grand nombre. Par exemple, pour un PLU ou un PLUI, potentiellement tous les habitants. Important aussi qu'il y ait des regards extérieurs qui puissent être faits sur le diagnostic. Et pour la définition des objectifs, du programme, des actions qui seront mises en œuvre, cela se fait souvent au sein de groupes de travail plus resserrés pour plus d'efficacité, comme ça a pu être dit précédemment par Aurélie. Sur la mise en œuvre, donc il est possible d'organiser des chantiers participatifs lors de la construction d'un bâtiment, lors de des aménagements. Par exemple, à Christinique, dans le Morbihan, les habitants ont participé à la pose des bottes de paille pour l'isolation du bâtiment ou à la réalisation d'enduits pour les murs de pierre. Pour la construction de l'école de Saint-Ganton, ce sont les élus et les habitants qui ont construit un mur de pierre. À Aidé-Bazouges et à Rieck-sur-Belon, ce sont les jeunes qui ont donné un coup de main pour construire leur skatepark. et à Trémargat dans les Côtes d'Armor pour le projet d'aménagement de la place, eh bien, ce sont les habitants, les retraités notamment, et même les agriculteurs qui ont fait la plus grande partie des travaux de l'aménagement. Une fois le projet réalisé, eh bien, la gestion, l'animation et l'entretien peut être confié à délégué par les élus à des associations. Par exemple, le fleurissement du bourg à La Vraie Croix dans le Morbihan est confié à une association de bénévoles. À Monteneuve dans le Morbihan, le fonctionnement du café associatif est aussi géré par un collectif d'habitants. On passe au suivant. Quels acteurs impliqués? L'objectif est de mobiliser large et à minima les acteurs directement concernés par la démarche et surtout de rechercher une diversité dans les profils, les regards et les points de vue. Pour un projet d'aménagement, bien, l'ensemble des bâtiments, mais plus spécifiquement les riverains, les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, les commerçants, et dans les communes rurales, essentiel aussi de solliciter les agriculteurs, notamment dans le cadre d'un aménagement de bourg, parce qu'ils le traversent avec des engins qui sont de plus en plus gros. Et dans les villes touristiques, les visiteurs de passage, et aussi, pourquoi pas, les habitants des communes voisines qui fréquentent aussi vos bourgs. Le tissu associatif est un vivier de participants et il offre aussi un espace d'échange qui est déjà organisé et facilement mobilisable. Il est important de solliciter, de sensibiliser et d'associer les services et les agents, car ils sont aussi dans leur domaine des experts et ils seront impactés par les projets. Ils peuvent être les relais de la démarche participative, car ils sont souvent en contact direct avec les habitants. Enfin, donc, il faut s'appuyer sur les structures existantes déjà mises en place, mais comme Aurélie, tu l'as précisé, comme des comités consultatifs, des groupes de travail, ou le conseil municipal des enfants, ou le conseil municipal des ados. Les clés de réussite. Il est essentiel que le processus soit clair et respecté, clair sur le contenu et la finalité de la participation. Il faut bien préciser le cadre réglementaire et politique si nécessaire, établir un calendrier, définir une méthodologie sur quoi on s'implique, à quelles étapes, qui décide au final et comment convenir aussi éventuellement d'un socle de valeurs partagées qui peuvent être écoute et respect de la parole de tous, bienveillance, ouverture à tous et à tout moment, modalité de suivi des décisions. Et il est préférable que ces valeurs soient écrites pour s'y référer si nécessaire. Les élus sont dans une posture, doivent être dans une posture d'ouverture et d'écoute, dans une posture d'approche collaborative et moins verticale avec les habitants et les services. Il faut faire confiance, il faut savoir déléguer, et notamment l'animation du processus. Il faut accepter le débat. Il faut mettre en place une animation adaptée, bienveillante et rigoureuse. Commencer par désigner un pilote ou une pilote de l'animation, qui peut être une ressource interne, mais on peut aussi faire appel à quelqu'un qui vient de l'extérieur, c'est souvent plus facile. Il faut impliquer et responsabiliser les participants, ça a déjà été dit. Rappeler les règles collectives si besoin, associer les habitants, les participants au bon moment, mettre en place des actions concrètes en parallèle, parce que parmi ces participants, il y a des gens qui ont besoin de concret et qui ont du mal à se projeter dans une démarche trop longue où il n'y a pas de concret, où ça ne se traduit pas par du concret, pardon. Et puis, bien évidemment, il faut tenir le fil de la concertation. Mettre en place des méthodes dynamiques et des outils conviviaux. Alors, concrètement, c'est privilégier des démarches ouvertes, aller vers plutôt que demander de venir à nous, diversifier la forme des temps d'échange et les lieux. Ça peut être des balades, des déambulatoires, des stands, des caravanes, des outils Internet, des ateliers de travail. Répondre aux besoins d'action de certains participants, je l'ai dit tout à l'heure, et surtout rechercher la convivialité. Il est très important de mettre en place des temps festifs pendant et à la fin du processus. Les pièges à éviter. Alors, défaut d'information et de communication. Sur les enjeux et réglementations, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui contraignent le projet parce que cela peut générer de la frustration par la suite si ce qui paraissait possible ne l'est pas en réalité. Frustration aussi en l'absence de communication sur les décisions des élus ou sur l'avancée du projet. Très important, donc, c'est éviter un entre-soi. Et il est fréquent dans beaucoup de communes de retrouver le même noyau d'habitants très impliqués dans la vie de la commune, mais qui n'est pas représentatif en fait, de la diversité des habitants. Et ça peut décourager d'autres habitants de s'impliquer, voire même de s'exprimer. Alors, un petit exemple rapide, c'est Mélionnec, 450 habitants dans les Côtes d'Armor, commune très rurale. Et pour la première réunion sur l'aménagement du bourg, l'assistance était majoritairement composée de nouveaux arrivants attirés par la démarche politique, par la politique culturelle de la commune, et très peu d'habitants des villages. Et au final, ça s'est traduit par un fort consensus dans les échanges, et à l'évidence, certaines personnes n'ont pas osé s'exprimer ou émettre des avis différents. Les élus s'y sont pas retrouvés, ils ont refait une réunion, mais en amont, ils ont contacté directement des habitants, et notamment les agriculteurs, pour qu'ils participent et viennent donner leur avis. Placer les habitants dans un mode expert ou décisionnaire, ça peut donner lieu à des solutions conformistes et peu créatives et laisser penser que les élus finalement n'ont pas d'objectif. Et puis arrêter le processus en cours ou ne pas respecter ses engagements, bien évidemment, c'est la certitude de décrédibiliser l'ensemble de la démarche et particulièrement les élus. Pour finir, une phrase que j'ai repris, Maïwenn,
oui.
Dans une vidéo sur le processus de conception intégrée de Bouvron, qui est en ligne, hein, où il est dit « l'intelligence collective a été mise au service de la réussite du projet ». Je crois que ça résume bien l'esprit de ces démarches. Voilà, j'espère avoir tenu le temps.
Juste.
Juste, c'est même dépassé un petit peu, je crois.
Dépassé un petit peu. Donc, je vais reprendre un petit peu juste pour… Voilà, il est 19h20 à peu près. Nous avons une grosse demi-heure, 35 minutes de temps d'échange. Je vais vous demander donc de… Je vais faire 2 minutes en même temps, si ça… Hop, juste une seconde. Voilà, merci. C'est plus simple pour moi. Je prends vos questions. Vous n'hésitez pas à lever la main. Il y a une première question qui est de Sabine Touzeau, qui dit « Vous évoquez des personnes extérieures pour animer des réunions. Est-ce un rôle… » Alors, juste avant de poser la question… L'idée, c'est que les gens qui posent des questions, c'est que ce soit vous, les élus autour de la salle, là, qui puissent répondre. Si vous avez des réponses à ces questions-là, on peut, nous, enfin Bruno, se porter parole de retour d'expérience de commune, mais mieux, c'est vous qui êtes là. Vous avez sans doute des expériences à partager avec nous et des réponses peut-être aux questions qui seront posées. Voilà, ça, c'est un petit peu le contexte. Je repose la question. Vous évoquez des personnes extérieures pour animer des réunions. Est-ce un rôle de Brudet ou avez-vous fait appel à d'autres intervenants? Quelle est la limite entre prendre en compte une expertise citoyenne et placer les habitants en mode expert? Bruno, je te laisse.
Sur la première partie, non, clairement, c'est pas le rôle de Brudet. On n'est pas là pour remplacer des spécialistes de l'animation. Il y en a beaucoup. Par contre, on peut participer à cette animation, on peut participer à des ateliers participatifs au même titre que d'autres acteurs. Sur une thématique, on peut accompagner la collectivité. Mais c'est pas nous, c'est pas Brudet qui va mener la démarche, l'animation, clairement. Et puis, quelle est la limite entre prendre en compte une expertise citoyenne et placer les habitants en mode expert? Mode expert, c'est attendre une réponse technique de la part d'habitants et pour résoudre un problème. Je ne pense pas que ce soit le rôle des habitants. Il se peut très bien qu'il y en ait, parce que de par leur métier, on peut avoir un élu qui est architecte ou un élu qui est technicien de spécialiste de quelque chose qui peut offrir une réponse. Mais globalement, ce n'est pas ce qui est attendu.
Alors là, il y a une question à laquelle peut-être Aurélie ou Patrick, d'ailleurs, qui ont mené beaucoup de… Mais il peut y avoir d'autres élus, hein, sur la question de la, du virus, hein, de la crise de la Covid. Comment vous gérez vos projets de participation dans le cadre de la crise sanitaire, pour faire ça?
Je veux bien commencer par répondre. Ouais. Ben, on les gère comme on peut. Ce n'est pas une réponse, mais en fait, on a démarré beaucoup de projets, nous, avec donc, les comités. On a pu faire pendant juillet, août, septembre. Là, évidemment, c'est beaucoup plus tendu. On essaie de faire des réunions en visio, mais évidemment, c'est moins, on va dire que c'est moins convivial. Quand on parle de convivialité, on est vraiment dedans. La visio, c'est bien pour... Enfin, c'est bien, mais c'est vite fatigant, c'est pas facile. En plus, on n'est pas toujours bien équipé sur la commune en réseau, donc participer. Donc, on essaie de. Là, on met un petit peu en pause, on prend justement le temps de passer nos projets dans les critères de résilience, d'écrire notre feuille de route, et puis on a mis les comités un petit peu en pause juste là, le temps des quelques semaines de confinement.
Est-ce qu'il y a d'autres prélus qui ont peut-être des remarques là-dessus ou des idées?
Si tu veux,
ouais.
je peux intervenir. En fait, au moment du premier confinement, effectivement, nous, on s'est retrouvés en situation un peu particulière, au juste parce que du fait qu'il n'y avait pas de commerce, c'est là qu'on a fait la proposition de monter ce qu'on a appelé l'épicerie du diable. Ça consistait pour nous... Le diable, c'est la figure emblématique du Juc. Hein. Donc, c'est pour ça que tout est du diable au Juc. Et en fait, on a lancé, un lieu avec les élus. On a lancé un lieu de commande et on faisait le regroupement des commandes venant d'une dizaine, une douzaine de magasins. Au départ, on l'a monté qu'avec des élus pendant toute la partie confinement pur. Au début. Ensuite, on a commencé à faire rentrer d'autres, les habitants du fameux groupe de travail commerce, nous ont demandé d'intégrer ça. Et c'est vrai, et depuis, là, toute la partie finale, là, depuis, entre autres, l'autre jour, bah, effectivement, on se retrouve à faire des visioconférences dans lesquelles on essaye de faire participer. Alors, soit les gens en visio, soit les deux habitants étaient en jury, ils étaient présents avec moi dans la salle de conseil, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est pas simple de continuer à faire des réunions dans le contexte actuel.
On a une autre question à laquelle peut-être Pierre Rousset a commencé à répondre dans le chat, mais voilà, c'est comment faites-vous pour sonder rapidement l'ensemble de la population? Donc, Pierre Rousset, qui est maire de Kermaria-Sulard, dans les Côtes-d'Armor, va peut-être pouvoir prendre la parole et compléter son propos écrit. Est-il là, Pierre?
Oui, je suis là.
Voilà.
Bien, vous m'entendez?
Très bien.
OK. Oui, je commence à répondre à des questions qui étaient posées là. Et donc, je vais intervenir juste 3 minutes pour donner quelques informations vu la demande de Maïwenn. Alors, nous sommes une commune de 1050 habitants. Avant les municipales, on est venu me chercher pour animer l'équipe. J'ai dit oui à quelques conditions. J'ai dit oui, si on fait un travail d'équipe, oui, s'il y a une écoute des habitants avant de décider, oui, s'il y a une communication sérieuse et non pas commerciale, et oui, sur un minimum de valeur partagée. Bon, juste pour répondre à la petite question, après je reviendrai donc sur mon propos. Pendant l'été, nous, pour consulter les habitants, ce qu'on consulte régulièrement, on voulait consulter les quartiers. Nous avons fait des réunions de quartiers en plein air et c'était très bien. C'est-à-dire qu'au départ, après les élections, nous voulions réunir chaque quartier à la salle principale de la commune. Nous n'avons pas pu le faire à cause du Covid. Nous sommes allés dans les quartiers. Bon, je reprends un petit peu. Qu'est-ce que nous avons fait avant les élections? Je ne souhaitais pas qu'on dise « moi, je » ou « nous allons révolutionner et puis on va se débrouiller tout seul ». Donc, j'ai proposé à mes collègues de construire une enquête qui soit le plus rigoureuse possible. Nous avons fait une consultation avec 70 questions, beaucoup de questions apparemment. On a cru qu'on allait décourager les répondants. Mais cette consultation auprès des habitants sur ce qui allait, sur ce qui n'allait pas, a été très, très bien perçue. Moi, j'espérais une centaine de réponses avec beaucoup de réponses oui, non, et puis c'est tout. Et puis, on pensait que quelques personnes en nombre très limité allaient justifier les réponses. Eh bien, non. Nous avons eu non pas 100 retours de questionnaires, mais 250 avec très souvent des justifications. C'est-à-dire que, et là, je le constate aujourd'hui, quand on prend les gens sérieusement, ils nous répondent sérieusement. Souvent, il y a des habitants qui disent « Oh, tu sais, les habitants, ils s'en foutent ». Quand on dit ça, c'est parce qu'on ne s'intéresse pas suffisamment à l'habitant. J'ai expérimenté ça aussi avant dans le syndicalisme. C'était la même chose. Une personne, quand elle sent qu'on s'intéresse à elle, elle va répondre. Si elle sent que tu fais de la com et de balles, elle ne va pas te répondre à juste titre. Donc, les citoyens sont en général des gens intelligents si on part du principe qu'ils ont des choses intéressantes à raconter. Donc, on a fait une grande consultation. Ça a été très bien suivi. Les gens ont répondu. Ça nous a demandé énormément de temps pour dépouiller, mais c'était une condition élémentaire parce que nous étions, nous, une seconde liste en opposition à celle du maire. Donc, moi, j'avais dit à mes collègues, faisons un rapport sérieux. Comme ça, si on n'est pas élu, eh bien, le rapport existera. Il sera remis à tous les habitants. Donc, nous avons fait l'étude sérieuse. Et puis après, bon, les habitants ont cru nécessaire de voter pour nous. Donc, on a été élu avec 2 habitants sur 3 nous ont fait confiance. Mais en tout cas, aller chez les habitants, bien sûr, ceux qui sont équipés répondaient en ligne. Ceux qui n'étaient pas équipés ne répondaient pas en ligne. On leur donnait des questionnaires papier. Il y a eu une démarche d'aller chez tous les habitants. Donc, la consultation est bien. Alors, que retenir de la consultation? Très rapidement, je ne vais pas développer. Les habitants de la commune disaient « Nous ne sommes pas écoutés par l'équipe actuelle. Nous ne sommes pas informés. » Donc, le manque d'écoute et le manque d'information ressortaient très fortement. Je ne détaille pas, mais ils avaient aussi, les habitants étaient aussi informés du fonctionnement du quartier, de mon quartier qui s'appelle Kerruel, en Kermaria-Sulard. Et moi, j'étais avant animateur, j'étais enseignant et puis aussi responsable syndical au niveau national. Donc, j'étais habitué à travailler avec les militants, les adhérents. Et quand j'étais en retraite, ben, j'ai appliqué les mêmes méthodes au niveau du quartier. Et dans le quartier, on a appris aux habitants à prendre le temps de s'écouter, à agir et à faire de l'action qui gagne. C'est-à-dire qu'on a mené des actions qui ont été gagnantes et ça a permis aussi aux habitants de se dire, eh bien, quand on prend le temps de s'écouter, de s'unir, on peut faire changer les choses. Ça, c'est toujours important de lancer des choses qui aboutissent.
Question voilà. Très pratique, comment récupérer les adresses mail des habitants? Ça va dans le sens de...
Ah, alors là, il faut faire extrêmement attention. Les adresses mail, quand j'animais le quartier, les habitants nous donnaient leur adresse mail, donc les habitants du quartier. Donc, j'ai récupéré pas mal d'adresses quand j'animais le quartier. Ensuite, il y a un autre quartier qui était jaloux en disant « C'est beaucoup trop rapide la vitesse sur cette route dangereuse qui va chez toi, Maïwenn, à Penvénan. » Entre Camara et Pénin, c'est dangereux. Donc, nous avons aussi mobilisé les gens de ce quartier et les gens signaient en ligne. Donc, il y a eu, moi, avant de commencer, j'avais déjà 150 adresses électroniques. Quand nous nous sommes présentés, j'ai interrogé chacune des personnes qui avaient signé toutes les pétitions qui travaillaient avec nous pour savoir s'ils acceptaient qu'on leur donne maintenant de l'information parce qu'on pensait à la dimension communale. Donc, je fais extrêmement attention. Et les fichiers ne circulent pas comme ça. Il n'y a que d'autres personnes qui ont les fichiers, car il faut être très, très vigilant. Donc, ensuite, il y a d'autres actions. Quand nous sommes allés chez les gens, bien, ils avaient un lien pour accéder à notre consultation. Et après, bien sûr, ils nous laissaient leur adresse électronique. Donc, aujourd'hui, on peut inonder facilement 80% des habitants de Camaria par notre communication électronique. Et ça, c'est extrêmement important, car les lettres électroniques, nous en faisons une tous les 15 jours, tous les 3 semaines. Là, on en a fait une quinzaine plus des compléments qui étaient nécessaires pendant la campagne difficile du Covid. Donc là, nous pouvons informer. Donc, le fichier, on l'a constitué progressivement. Et maintenant, quand les personnes de Camraya qui n'ont pas donné leurs coordonnées passent à la mairie, Catherine à l'accueil leur demande « Est-ce que vous voulez vous laisser votre adresse électronique ?» Donc, on a une très bonne couverture des habitants. Et ça, c'est essentiel pour la communication et c'est essentiel pour les consultations que nous faisons régulièrement, car régulièrement, nous faisons des consultations. Alors, j'essaie d'aller assez rapidement. Bon, pendant la période où nous étions élus, mais pas en place, parce qu'il fallait attendre le mois de juin, bon, on a essayé d'organiser la solidarité, on a essayé d'informer au mieux. On s'est mis aussi d'accord, tiens, tout à l'heure, je voyais à Plessé, la camarade de PC, qui disait qu'au niveau indemnité des élus, on a essayé de partager. Et moi, c'était pareil, j'ai dit aux collègues, aux élus, il y aura un maire, quatre adjoints, on va essayer de passer aussi à quatre conseillers délégués, on va faire un partage. Pour moi, l'indemnité que j'ai, c'est 1 000 euros. Mais comment ça a été fait? J'ai dit, partageons le temps de travail. Donc, j'ai dit à toi qui vas être des conseillers délégués ou adjoints, tu penses que tu peux faire combien d'heures par semaine? Eh bien, les collègues m'ont répondu. Et ensuite, j'ai fait une clé de répartition en fonction des heures, des engagements potentiels de chacun des élus. Donc, c'est comme ça que ça a été fait. Et chacun des élus, chaque élu, chaque semaine, chaque jour, note le temps qui passe pour la commune. Ça nous permet de faire quelques ajustements et de voir où on va. Donc là, je passe. Depuis que nous sommes élus, donc je disais, on fait des informations très régulières par la lettre électronique. Nous continuons régulièrement les consultations sur de nombreux sujets. Est-ce qu'il faut ouvrir un marché ou pas? Une résidence senior, on a un projet là, ben, on a interrogé les habitants. Les jeunes voudraient un city-stade, donc il y a déjà eu une consultation depuis quelques jours sur le City Stade pour les jeunes, et dans la prochaine électronique, on va interroger les vieux, je veux dire les gens qui ont plus de 17 ans, pour savoir ce qu'ils pensent de ce projet, parce qu'un City Stade, il faut être sûr qu'il soit fréquenté, il faut qu'il soit conçu avec les jeunes, et il faut aussi, bien sûr, mettre un petit peu d'argent après. Nous voulons mettre en place des comités de consultatifs. Alors, actuellement, nous avons des pseudo-comités consultatifs, c'est-à-dire que quand on réfléchit au budget, il y a des élus et des non-élus. Quand nous sommes sur la question du fleurissement, aménagement, il y a des élus et des non-élus. Quand on veut revoir les chemins sur la commune, il y a des élus et des non-élus.
Pierre ?
Oui.
Je propose que peut-être tu t'arrêtes là et qu'on passe peut-être la parole à d'autres.
Oui. Ben, juste une dernière chose.
Pardon.
On a fait un travail important sur tous les quartiers, c'est-à-dire que tous les quartiers, nous les avons réunis au mois de juillet. Donc, 11 quartiers, nous avons fait des réunions et dans chaque quartier, ce n'était pas seulement les revendications qui m'intéressaient, c'est ça servait, mais c'était surtout qui accepte d'être correspondant. Donc, aujourd'hui, on a 25 correspondants de quartier et ça, c'est important pour nous pour la suite parce que la démocratie participative, elle passe aussi par des correspondants dans l'ensemble des secteurs. Allez, je me tais pour l'instant, je me tais.
Merci beaucoup. Juste pour précision sur le respect du RGPD, donc nous, au niveau de Brudède, on vous demande systématiquement si vous souhaitez qu'on vous transmette de l'information. Et donc, c'est une condition sine qua non. Et en fait, la base de données de Brudède, elle est interne à l'équipe de salariés. Elle n'est en aucun cas transmise aux élus de Brudède, aux administrateurs, parce qu'il pourrait y en avoir un usage qui n'est pas celui qui est prévu. Alors, y a-t-il d'autres témoignages ou des questions qui peuvent être posées?
Il y a Marie Bousseau qui avait un témoignage sur la récolte de... Plouguerneau, sur la récolte d'informations, justement, pour savoir comment il s'y prenait. Marie, peut-être que tu peux expliquer un petit peu ce que tu as écrit rapidement dans le chat.
Ouais, mais c'était pour bonsoir tout le monde. C'était pour par rapport à ce tir de RGPD. C'est vrai que nous, en début de mandat, on a voulu sur les questions environnementales justement réunir des habitants. Et comme lors du dernier mandat, il y avait des ateliers autour de mobilité et énergie, on avait envie de les associer eux dans un premier temps. Et pour rentrer en contact avec eux, il a fallu qu'on passe par les services municipaux qui avaient à l'époque recueilli leurs adresses et leurs adresses mail. Et donc, c'est la personne en charge de ces thématiques au service qui les a contactés pour après recueillir, avoir leur retour de propositions, etc. Et nous les a transférés dans un second temps. Donc, en tout cas, pour l'instant, alors je ne sais pas d'un point de vue légal exactement ce qu'on peut faire ou pas. En tout cas, nous, on est un peu dans ce côté indirect, là, où on doit passer par les services pour communiquer avec les habitants. Mais je n'ai pas creusé la question. On nous a expliqué que les choses se passaient comme ça, donc on a fait avec. Mais c'est vrai que ça, cette histoire de RGPD, là, ça crée un peu un frein dans la communication. Hein. Je ne sais pas dans les autres communes comment ils s'organisent, les élus, pour communiquer directement avec les habitants.
Pas de réaction?
Et rapidement, pour nous, on s'organise mal. C'est pour ça que je demandais.
En termes d'animation, pour ceux qui ont mené des démarches, est-ce que vous avez eu des soucis à mettre en place une animation? Est-ce que vous avez les moyens de faire appel à une animation extérieure, parce que c'est souvent ce qu'il y a de préférable, une personne qui soit neutre, qui ne soit pas forcément de la commune, pas forcément impliquée dans la vie de la commune. Comment vous voyez les choses? Est-ce que vous avez un retour d'expérience à faire par rapport à ça?
Moi, je veux bien. Chez nous, en fait, comme je disais tout à l'heure, en termes d'animation, on s'est appuyé sur CAUE, Finistère Ingénierie Assistance, TAC 29. Bon, c'est vrai que Maïwan est intervenu, mais souvent en complément de ces structures-là. En fait, c'est vrai que ces structures-là, ce sont des structures qui portent l'ingénierie, quoi. Un exemple tout dernièrement, par rapport à la création du commerce en centre-bourg, va se poser la question du stationnement et de la circulation, aussi et surtout du stationnement. Et c'est un petit point un peu compliqué. Les gens estiment que c'est compliqué de se garer. Moi, j'identifie sur un rayon de 250 mètres autour de l'église et de la mairie, on a 120 places de stationnement. Donc, de dire qu'il manque du stationnement et qu'il faut un grand parking en plein centre-bourg, la question, elle laisse un peu rêveur. Par contre, c'est vrai que c'est difficile de faire passer ça en tant qu'élu directement. Et là, entre autres, on a sollicité FIA sur ce sujet-là, qui a fait une petite enquête et qui est venue, entre autres, au moment de l'arrivée le matin à l'école et du départ, parce que c'est vrai que les gens, quand ils emmènent leur gamin à l'école, ils disent c'est compliqué d'eux, il faudrait pouvoir mieux se garer. Et en fait, ils se sont rendus compte que le matin, par exemple, ben, il y a 5 personnes qui arrivent en même temps. Il n'y a jamais plus que 5 personnes. Donc, est-ce qu'il faut aller créer un parking pour qu'à un moment précis, il y a 5 personnes qui puissent venir, alors qu'en laissant la voiture 30 mètres plus loin, il y a de l'espace, il y a 20 places de stationnement le long d'une rue qui n'est pas utilisée. Voilà. Et l'intérêt, c'est que c'est ce document-là, c'est FIA qui a rédigé. Et effectivement, on va s'appuyer sur ce document prochainement dans le bulletin municipal pour expliquer effectivement le pourquoi on ne va pas faire un parking, parce qu'on a identifié des places, on sait à peu près, mais ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est un partenaire extérieur qui nous assiste sur ça. Et c'est vrai, et eux, ils sont prêts à venir nous assister pour présenter ça aussi. Bah, on avait programmé une réunion publique pour rediscuter de ce sujet-là, effectivement, mais dans le contexte actuel, on verra ça au calendrier grec, quoi. Mais c'est l'expertise, quoi, c'est ça. Et au même titre que TAG a animé beaucoup de réunions aussi chez nous. Et c'est vrai qu'on voit bien son métier, c'est d'animer. Moi, je ne suis pas bon pour animer, je parle trop longtemps.
Alors, tu parles trop longtemps, et justement, il y a plusieurs personnes qui ont des questions à poser, donc je me permets d'intervenir. Je profite de ta parole. Sophie Briand, la commune de Naillé, qui voudrait prendre la parole, suivie d'Héloïse Boutin, aussi de la Bernerie-en-Ray, donc il y a Hervé Jean. Donc, Sophie Briand de Naillé, si vous voulez bien.
Oui, bonsoir. C'était juste une réflexion qui peut peut-être servir à beaucoup. On a mis beaucoup là, sur les deux derniers mandats des ateliers participatifs sur différents projets et on a mis en place aussi des cafés quartiers. Mais on se rend compte quand même que c'est difficile de maintenir la mobilisation, notamment de nos référents de quartier. Là, on travaille sur la mise en place d'une autre façon, d'une façon de faire, mais on va travailler ça avec les référents de quartier qui veulent continuer à nous accompagner. Par contre, c'est vrai qu'ils prêchent souvent pour leur paroisse et leur petit pré-carré. Et c'est compliqué de faire entendre que c'est vraiment pour enfin, c'est en commun, c'est pour travailler sur la commune tout entière. Mais autrement, c'est vrai que tout ce qui a été mis en place sur les ateliers participatifs de différents projets, notamment on a à l'AIE un agenda 21 depuis 2011, eh bien, ça a été très constructif, ça a été vraiment un travail de fond avec la population. Bah, c'était plus une réflexion qu'une question que je voulais vous soumettre.
C'est intéressant d'avoir un autre retour d'expérience justement sur ces questions-là. Du coup, je vois que le temps passe, donc je vais laisser la parole à Héloïse Boutin, la Bernerie-Henré, qui voulait aussi intervenir depuis tout à l'heure.
Oui, du coup, c'était pour revenir sur les mails et sur comment interroger les habitants, parce que nous, c'était plutôt pour partager notre expérience. Du coup, on a mis en place un premier questionnaire, du coup, dans l'idée, c'est donc une nouvelle équipe qui arrivait au mois de juin. Et on a, plutôt que de récolter les adresses mails pour envoyer les questionnaires, en fait, on a fait un questionnaire en ligne directement via Google Forms ou Forms, enfin là c'était Microsoft Forms, et qu'on a mis sur le site internet de la mairie en fait. Donc c'est plutôt par une grande communication que dans le journal, dans le bulletin municipal, à partager le lien à l'office de tourisme et à la mairie, et en fait les gens pouvaient répondre directement au questionnaire en ligne et avoir les réponses. Alors j'avais quand même mis une possibilité de laisser une adresse mail à la fin pour recevoir directement par mail les résultats du questionnaire, mais les résultats sont aussi en ligne maintenant au même endroit mais à la place du questionnaire. Donc je ne sais pas si ça peut donner des idées sur la manière de consulter les gens sans forcément avoir à récupérer les adresses mail. C'était pour le coup une première sur la commune. On est une commune de 3000 habitants à peu près et on a eu près de 450 réponses. Donc on était vraiment content de ces résultats, voilà, d'avoir autant de réponses. Pour nous, ce qui est intéressant, c'est aussi qu'on a beaucoup de résidences secondaires et c'est une commune touristique et on voulait aussi pouvoir consulter les touristes et ces résidences secondaires. Donc, c'est ce qui permet de d'élargir un petit peu aussi sur les personnes à consulter. Donc, voilà, c'était juste partager.
C'est intéressant. Est-ce que il y a des remarques là-dessus ou est-ce que Hervé Jean, tu voulais prendre la parole aussi donc de Localtas? Faut que attends. Non, on t'entend pas Hervé. Non, on t'entend pas, pourtant ton micro n'est pas coupé. Attends, je vais essayer de te réactiver. Attends, là, ton micro est coupé. Voilà. Hop. Écoute, Hervé, j'ai un problème de technique là. J'arrive pas à te. Normalement, tu devrais t'entendre là. Mais on ne t'entend pas. Alors, comme on ne t'entend pas, je suis désolée parce que ça va être un peu compliqué. Je te propose de mettre ta question peut-être par écrit ou ta remarque si c'est possible. Parce que là, ça va être un petit peu compliqué. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on ne t'entend pas. J'arrive pas à activer ton micro. Il y avait une autre question. D'Antoine Béraud. Antoine Béraud, qui est à Saint-Péran, la commune de Saint-Péran, qui dit « on parle de participation, est-ce que ce terme a été travaillé avec l'équipe municipale pour savoir ce qu'on entend collectivement par participation ? La notion est peut-être différente pour chaque personne. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent de répondre à cette question du terme de participation ? Alors, Bruno a évoqué les différents niveaux de participation effectivement qu'une collectivité peut mettre en œuvre, hein, qui va d'une très faible participation à une très forte participation. Est-ce qu'il y a des exemples ou des témoignages?
Oui.
Oui.
Je vais répondre. Moi, Pierre, la participation. Moi, c'est Pierre. La participation des habitants, elle se fait en fonction des compétences et des goûts des uns et des autres. Quelquefois, une participation, c'est mettre un avis. Mais là, on vient de revoir les cartes pour circuler à pied sur la commune. Il y a un gars qui adore faire ça. Eh bien, évidemment, j'exploite à fond ses compétences. Il n'est pas élu, mais je lui tire dessus et il est ravi. Lui, par exemple, il est très à l'aise aussi sur les photos, donc il met des photos sur des cartes. Quand on fait une newsletter que je veux captivante et que je veux que nos concitoyens soient heureux, je dis, bien, ils vont faire ça. Il y avait un autre qui m'embêtait sur les routes, qui était mal entretenu et tout. Et il bossait autrefois dans la voirie du côté de Tours. Ben, je lui ai dit, tu vas faire partie du comité des experts. Donc, les experts, ce sont ceux qui ont analysé les demandes des habitants des quartiers sur tout ce qu'il fallait revoir. Donc, moi, j'essaie de, pour faire ça, en fonction de la personne, on voit comment on peut, entre guillemets, l'exploiter. J'emploie ce terme, mais quand on prend en considération les compétences de quelqu'un, je vois que les gens sont ravis de le faire et moi, je suis ravi de les exploiter.
Du coup, je vais peut-être lire à moins que quelqu'un ait une remarque en plus à faire sur cette question de la notion de participation. Sinon, je vais dire l'écrit d'Hervé Jean. Je suis vraiment désolée, Hervé, je ne sais pas ce qui se passe. Hervé nous dit, pour faciliter l'animation, pardon, il y a une autre question entre-temps. Pour faciliter l'animation des ateliers, on demande systématiquement au bureau d'études des références dans l'animation d'ateliers en plus de leurs références techniques. Donc ça, c'est un moyen d'être sûr d'avoir effectivement dans des bureaux d'études qui répondent qui vont assurer la maîtrise d'œuvre sur une étude, vont effectivement avoir cette dimension d'animer des ateliers participatifs. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus dans le cahier des charges, dans la rédaction de cahier des charges des recrutements des maîtrises d'œuvre d'études. C'est ça que tu voulais dire, Hervé ? C'est difficile de communiquer. C'est ça. Alors, il y avait d'autres questions à suivre, à moins que... Oui. Bruno, est-ce que tu reprends? Du coup, il y a quelques remarques, mais peut-être qu'ils ne méritent pas forcément qu'on les redise dans le dialogue sur justement les différents moyens de toucher la population, sur des liens dans les newsletters.
Peut-être une autre question, c'est comment dire, il y a certains d'entre vous, enfin les témoignages montre que vous aviez pensé votre démarche participative en amont et que dès que vous êtes arrivé en place, vous avez mis en place tous les outils pour répondre à tous les cas de figure. Est-ce que vous pensez que c'est important ou d'autres communes pensent que cela peut se faire au fil de l'eau sans forcément quelque chose de bien construit comment vous voyez les choses?
Moi, je veux bien répondre pour Plougarneau, peut-être. Moi, je suis une nouvelle élue, hein, mais c'est un groupe d'élus qui continue la dernière mandature avec le même maire. Et nous, d'une manière générale, on n'aime pas trop ce qui est formalisé. Par exemple, pendant la campagne, pendant qu'on faisait le programme, à un moment donné, on a commencé à évoquer le conseil municipal des jeunes. Et en fait, ça ne nous allait pas trop d'avoir à nouveau des jeunes qui allaient être élus avec la petite écharpe bleu-blanc-rouge là, pour la photo dans le Télégramme. On a plus envie d'avancer au fil de l'eau, en mode projet, et voir un peu justement comment la sauce prend selon les projets, et puis avancer en fonction de ça, plutôt que de formaliser des instances de la démocratie et d'avoir plein de belles choses sur le papier, mais qui finalement, dans le feu de l'action, ça fonctionne pas forcément ou ne sont pas forcément adaptés aux projets qui sont portés, en fait.
Alors, je compléterai les propos en disant qu'en effet, il faut aussi avoir l'honnêteté intellectuelle de faire des pauses et de pouvoir regarder ce qu'on fait, ce qu'on met en place et évaluer aussi. Je pense que l'évaluation est importante parce que voilà, on peut mettre des choses en place et puis il faut se dire que je sais pas, on regarde ce qui a été fait, ce qui fonctionne pas, et puis ne pas hésiter à réajuster aussi Rien ne doit être figé, on est tout le temps dans le mouvement et justement quand on innove sur des outils qui sont où on n'a pas énormément de recul, eh bien voilà, il y a, pour moi il n'y a aucun souci de s'arrêter, faire pause, regarder, changer ce qu'il faut et continuer. C'est comme ça qu'on avance.
Alors, il y a une remarque de Pierre. Pour animer une réunion, il faut surtout être pédagogue, un peu enthousiaste. C'est comme certains profs compétents, mais tellement tristes à écouter. Les animateurs de Brevette sont excellents pour animer. Merci, Pierre. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions? On a encore éventuellement une ou deux minutes, mais c'est vrai qu'on arrive bientôt à la fin de notre webinaire, ça passe vite. On mesure bien que c'est… Ouais, vas-y. Ouais, ouais.
On a deux agglos qui sont présents. Est-ce que peut-être avoir un petit retour de la part des agglos, comment ça se passe dans les agglos, comment vous voyez les choses? Est-ce que vous pensez que c'est différent que dans les communes?
Une remarque sur l'agglo, le temps que quelqu'un intervienne. J'étais en réunion de l'agglo de Lannion cet après-midi, et il y avait un mec très bien certainement qui disait la démocratie participative, c'est bien pour les communes, mais ça ne marche pas au niveau de l'agglo. Là, je lui ai dit, mais tu dis n'importe quoi, donc c'était… Mais pour dire un petit peu, oui, dans les communes, on peut faire du participatif, mais au niveau de l'agglo, c'est quand même trop complexe, on ne peut pas le faire. C'est quelque chose que j'ai dénoncé avec le sourire, évidemment.
Je ne sais pas si on a des réponses des agglos présentes. Sinon, on a Sabine Touzeau de la commune de Béton qui demande à prendre la parole. Donc, comme je vois que l'heure tourne et que les agglos ne se manifestent pas particulièrement.
Bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce que vous m'entendez bien?
Oui, c'est fort même, on vous entend bien.
D'accord, merci. Juste pour apporter un tout petit témoignage, puisqu'avec Karine Lepinois-Lefrène, on est donc sur la commune de Béton et qu'on est en réflexion sur la mise en place de la participation citoyenne à Béton. Nous avons prévu trois réunions avec les élus intéressés et je rebondis sur ce que disait Antoine quand il disait on parle de participation et ce terme, est-ce que ce terme a été travaillé avec l'équipe municipale pour savoir ce qu'on entend collectivement par participation? Nous, on a estimé que c'était vraiment le sujet de notre première rencontre parce qu'il paraît nécessaire de définir les termes pour être d'accord sur ce dont on parle et avoir une réflexion, une construction commune pour ne pas venir avec chacun des idées différentes et croire qu'on parle de la même chose et qu'au final, il y a des difficultés liées à la compréhension de ce terme.
Donc ça complète un petit peu le propos qu'on avait tout à l'heure sur effectivement ce choix de terme. Il est 19h58, je pense qu'on va bientôt mettre un terme à ce webinaire pour que vous puissiez partir manger tranquillement sans que ça prenne trop de retard. Je voudrais juste avant de laisser la parole à Aurélie Mézières qui va avoir un petit mot de conclusion, juste vous dire que à toutes nos rencontres, on essaie toujours d'avoir un petit retour des participants pour savoir un petit peu comment vous avez, qu'est-ce que vous pensez sur le fond et la forme. Donc, on a fait un petit questionnaire de satisfaction. Je mets le lien dans le chat. Je vous renverrai par mail aussi. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à passer quelques minutes juste pour que nous, on puisse améliorer aussi nos rencontres et nos animations et ces webinaires qui ne sont pas très faciles à organiser parce que c'est moins convivial que des rencontres physiques. Je vous remercie et je laisse la parole à Aurélie pour le mot de la fin.
Quelle lourde responsabilité.
Oui.
Eh bien, merci à toutes et tous. Un grand merci à Maïwenn et Bruno parce que ça s'est très bien passé et techniquement, c'était impeccable et le contenu, etc. Donc, merci à vous. Merci à toutes et tous pour en effet les échanges qui caractérisent bien Brudel, c'est-à-dire des témoignages, des échanges variés. Et je pense qu'on en retire toujours beaucoup de choses et c'est toujours passionnant. En tout cas, on n'est pas tout à fait dans la convivialité. Ça aurait été bien plus sympathique de continuer les échanges autour d'un verre. On est bien d'accord. Je ne désespère pas que ça arrive bientôt. Croisons les doigts. Et merci encore. Et à de prochains échanges.